Merci. Alors effectivement, ma contribution n'est pas sur le rôle des syndicalistes dans le sabotage, mais sur la manière dont les services gaullistes espèrent intégrer ou envisagent l'intégration des syndicalistes dans le sabotage, mais je vais y revenir. Alors, le sabotage, j'ai travaillé sur ce sujet récemment, on l'a dit, s'inscrit dans une double généalogie, qui est une généalogie à la fois militaire et précisément syndicale, qui en gros remonte à la fin, aux dernières décennies du 19e siècle, et c'est à cette période-là que le mot même apparaît, et puis qu'on en donne une définition que finalement sont capables de partager les militaires et les syndicalistes. En gros, le sabotage, c'est une destruction volontaire de biens matériels qui fait l'économie d'un affrontement direct avec l'ennemi, physique, je veux dire par là, et c'est une destruction à laquelle on procède de manière clandestine, donc qui implique des organisations clandestines, secrètes, que ce soit dans le monde syndical ou dans le monde des militaires. Et puis, c'est une arme qui a une valeur stratégique en raison de la disproportion entre les moyens, les faibles moyens qui vont être engagés, moyens humains, peu d'hommes, moyens matériels, donc des faibles moyens qui vont être engagés, tout en espérant obtenir un résultat, sinon spectaculaire, du moins stratégiquement important. C'est la disproportion entre les moyens engagés et les résultats attendus qui est au fondement même de la définition du sabotage et qui en fait une arme qui est particulièrement adaptée d'un contexte de lutte du faible contre le fort. Pour faire simple, en fait, donc le sabotage, c'est l'arme des faibles, même si les puissants ne rechignent pas du tout à l'utiliser, mais c'est une arme qui est particulièrement adaptée à ce que peuvent en faire les faibles. Alors, donc défini à la fin du 19e siècle, en réalité, dans le monde syndical, le mot même vient du monde syndical, en réalité, le monde syndical, la CGT en particulier, prend ses distances assez rapide, après avoir défendu ce type d'arme, prend ses distances rapidement avec le sabotage. C'est chose faite avant même la Première Guerre mondiale. Donc il y a des articles importants de Jaurès qui expliquent cette évolution. Et finalement, donc, par la suite, ce sont les militaires, les services secrets, qui d'abord vont adopter le mot, un peu avec des pincettes d'abord, parce que pour les militaires, adopter un mot qui vient du monde syndical, c'est pas très facile. Et puis, finalement, les deux réalités se ressemblant, ils vont adopter ce mot après la Première Guerre mondiale, et entre les deux guerres, ce sont bien les militaires, les services secrets en particulier, qui s'attachent à faire passer le sabotage, disons, de la théorie à la pratique, à des plans qui sont élaborés à partir de la Première Guerre mondiale et pendant l'entre-deux-guerres, pour utiliser cette arme. Voilà. Donc, on commence à réfléchir au passage à la pratique. Lorsque la France libre est créée, donc au début, enfin pendant l'été 1940, on le sait, elle entend fonder son ambition politique, qui est d'incarner la France, sur sa contribution militaire à la victoire future. Et on le sait aussi, le général de Gaulle va faire le choix de la présence, c'est-à-dire qu'il va mettre des soldats à peu près partout où il peut, sur tous les fronts, pour être aux côtés des alliés, que ce soit sur les mers, dans les airs, et puis sur un peu tous les fronts où sont présents d'abord les Britanniques, puis les Américains. Et puis, à côté de ces fronts, disons, traditionnels, terre, air, mer, apparaît progressivement un front clandestin, dont la France libre prend conscience. Donc c'est un front qui émerge lentement, en France même, et c'est un front sur lequel, précisément, la France libre peut espérer peser beaucoup plus que sur les fronts traditionnels, précisément parce qu'elle n'a pas besoin d'immobiliser des troupes très importantes en volume, troupes dont elle ne dispose pas. On sait que la France libre a souffert d'un manque d'hommes cruel pendant toute son histoire. Donc là, elle a la possibilité de réellement peser. Et les armes qu'elle peut utiliser pour peser, c'est d'une part le renseignement sur le front clandestin, et puis précisément le sabotage. Donc le sabotage va être intégré à la réflexion de la France libre, et la question à laquelle je voudrais essayer de répondre, c'est comment est-ce que les hommes de la France libre, précisément, s'engagent dans cette voie du sabotage, et quelle place accordent-ils aux syndicalistes dans leur projet en matière de sabotage ? Alors, je vais répondre à cette question en me focalisant sur les débuts, en fait, sur la période 1940-1942. pour montrer d'abord qu'on trouve au sein de la France libre, et c'était relativement peu connu, on trouve au sein de la France libre les deux racines, syndicale et militaire, du sabotage. On va voir que à la fois on trouve des syndicalistes qui défendent le sabotage et des militaires qui expriment des réserves à l'égard de cette méthode avant que les choses finalement ne s'inversent pratiquement en 1942. Donc, si je prends le point de départ, la France libre, alors si j'ai bien compris, j'étais pas là ce matin, mais si j'ai bien compris, on en a parlé un petit peu ce matin déjà, la France libre naissante, celle de 1940, celle de 1941, c'est une France libre qui proclame son apolitisme. Et qui rejette les cadres anciens, les cadres de l'avant-guerre. Mais en réalité, sur le fond, les hommes de la France libre, en 1940, sont à dominante de droite, même si ils proclament cet apolitisme. Mais pourtant, au milieu de ces hommes qui sont majoritairement à droite, on a un petit groupe, et je parle là de ceux qui restent à Londres, pas de ceux qui partent sur les différents fronts, et notamment en Afrique, on a un petit groupe qui revendique ces valeurs de gauche, et qui tente d'infléchir la ligne politique de la France libre dans ce sens. Vous avez là le socialiste Henri Hawke, qui est chargé des questions concernant le travail, qui est chargé aussi de la liaison avec les syndicats britanniques au sein de la France libre. Vous avez Georges Boris, l'ancien collaborateur de Léon Blum, qui est à l'information. Et puis vous avez le directeur de l'armement, André Labarthe, qui fondera la revue La France libre et puis qui finalement ira vers un antigaullisme de plus en plus net. Et dès l'été 1940, ces hommes interviennent sur les ondes de la BBC, ils parlent à la radio à destination de la France, essentiellement dans les émissions du matin que l'on connaît les moins bien, les émissions notamment de 6h15 qui sont les émissions à destination du monde ouvrier, à l'exception de Labarthe, qui lui parle aussi dans les émissions qu'on connaît mieux, celles du soir, qui sont des émissions plus généralistes. Alors, ces hommes, ce petit groupe de gauche, professent une foi intacte, après la défaite, une foi intacte dans la capacité du monde ouvrier à rester un acteur majeur de l'histoire, et ils sont très tôt convaincus qu'ils constituent, c'est leur expression, les troupes de choc de la résistance naissante, ou la résistance en gestation. Et ils vont puiser dans l'histoire des raisons d'espérer que les syndicalistes peuvent se muer, finalement, en saboteurs au service de la France libre. Alors, d'ailleurs, ils les invitent, ce groupe-là invite les syndicalistes à se replonger dans les brochures du début du siècle. On fait référence là, par exemple, à la brochure de Pouget, de l'anarcho-syndicaliste de la CGT Pouget, qui a défini le premier le sabotage. Donc, ils les renvoient à ces brochures syndicalistes du début du siècle pour redécouvrir le sabotage, une technique de combat dont ils disent qu'elle est particulièrement adaptée aux ouvriers. Et ils font grand cas aussi, par exemple, en termes d'histoire, du précédent de la Grande Guerre. Pendant la Grande Guerre, selon eux, techniciens et ouvriers français, finalement, auraient sans relâche saboté la machine, la production destinée à l'occupant dans les provinces du Nord. Et donc, l'histoire ne ferait finalement que se répéter, puisque l'occupant, à partir de 1940, en zone occupée, exploite à son profit les industries, les réseaux de transport français au profit de sa propre machine de guerre. Or, ces industries et ces transports ne peuvent fonctionner qu'avec pratiquement qu'avec de la main-d'œuvre française. Et par conséquent, ils veulent croire que le sabotage est le point faible de l'appareil militaire nazi en France. Ils affirment, là encore, je cite, « L'arme du sabotage, habilement et savamment employée, peut renverser les plans les mieux préparés des tyrans nazis. » Et donc, dès l'été 1940, les appels vont se multiplier aux ouvriers pour qu'ils saisissent cette opportunité de jouer un rôle décisif dans la guerre. Je vous cite une intervention d'André Labarthe, 9 août 1940. Donc, c'est vraiment très, très précoce. « La lutte continue sous d'autres formes. C'est la guerre muette. » C'est la guerre silencieuse, c'est la guerre indirecte, c'est la guerre obstinée. C'est le sabotage qui est l'arme la plus redoutable et la plus sûre. Si vous gagnez la guerre muette du sabotage, vous aurez gagné une grande bataille humaine. Et alors, les textes se multiplient. On a des dizaines d'interventions de ce type à la radio. Le même Labarthe, en avril 1941, « Français, votre devoir est de saboter tout ce qui est destiné à l'ennemi. Chaque métier, chaque usine, chaque village doit avoir son régiment secret de saboteurs. » Donc il y a vraiment cette idée que, en s'appuyant sur une forme de tradition syndicale, on va pouvoir mobiliser les ouvriers, les syndicalistes en France, pour qu'ils deviennent, pour qu'ils se muent en saboteurs de la France libre. Et évidemment, pour ces hommes de gauche, si la France libre doit s'appuyer sur ses syndicalistes et ses troupes ouvrières pour saboter la machine de guerre allemande, évidemment, dans le même temps, elle doit reconnaître que ces ouvriers jouent un rôle prédominant dans la résistance à l'ennemi, et par conséquent, elle doit faire un pas en leur direction, définir une ligne politique qui tienne compte des aspirations du monde ouvrier. Bon. Alors, au sein de la France libre naissante, il y a un autre groupe qui, finalement, au départ, n'est pas beaucoup plus important, il va le devenir, mais pas beaucoup plus important en nombre, qui s'intéresse au sabotage. C'est les militaires, ce sont les militaires des services secrets. Les services secrets, alors ils ont changé de nom, ils se sont développés au fil de la guerre, j'y insiste pas longuement, donc c'est d'abord le... Mais je suis obligé quand même de le rappeler, parce qu'évidemment, en fonction de la période dont je parle, je peux pas tout à fait utiliser les mêmes noms, c'est d'abord le deuxième bureau, puis en 1941, pour faire simple, on appelle ça le service de renseignement, le SR, et à partir de 1942, disons qu'on parle du BCRA. Voilà. Alors, et ce service, on le sait, est confié... est créé et dirigé par celui qui n'est encore en 1940 qu'un jeune capitaine, André de Wavrin, qui va devenir colonel et qui prend le pseudonyme de Passy. Dès le 24 juillet 1940, donc là aussi on est très tôt puisque le service a été créé seulement trois semaines plus tôt, dès le 24 juillet 1940, Passy envisage de créer, je cite, « des foyers de résistance clandestins en France pour organiser le sabotage sur des bandes étendues de territoire ». Le problème pour Passy à ce moment-là, c'est que De Gaulle, lui, qui est un militaire assez traditionnel de ce point de vue, ne s'intéresse absolument pas au sabotage, il ne s'intéresse d'ailleurs pas davantage aux services secrets, et il s'applique à cantonner Passy aux activités de renseignement. Pas du tout de sabotage, c'est vraiment pas son affaire. Donc De Gaulle s'en désintéresse complètement, ce qui ne va pas empêcher Passy, lui, de continuer sa réflexion, d'autant que son intérêt pour le sabotage va être alimenté par les renseignements qu'il reçoit de France, et qui attestent que des groupes de résistance sont en train de naître, se créent et se coagulent en quelque sorte, se cristallisent, voilà le terme que je cherchais, et les renseignements attestent aussi que ces groupes sont décidés à agir, y compris de manière violente, et y compris par le sabotage. Par ailleurs, il y a quelques émissaires, rares, mais il y en a quelques-uns, qui arrivent à Londres, et qui eux aussi expliquent aux gens de la France libre que les petits groupes de résistance qui en sont en train de se développer sont prêts à saboter. C'est le cas, par exemple, de l'abbé d'Artagne, qui est mandaté à Londres par un petit groupe de résistants de Dordogne, et qui, lui aussi, va aller puiser dans l'histoire pour défendre l'arme du sabotage. Pas, évidemment, la même histoire que Labarthe, mais l'histoire de l'occupation de la France, l'occupation de la Roure par l'armée française en 1923. Et il écrit un long texte qui souligne que l'armée française, et c'est un fait, a été l'objet de sabotage par les Allemands à cette époque-là, et il en tire des leçons. Il écrit, je cite, « En pays occupé, le commandement, vit dans la crainte des sabotages organisés, car il sait que, pour y faire face, il lui faudrait des effectifs en quantité imprévisible et que, fixés sur place, il serait dans l'incapacité de manœuvrer. » Il devient donc nerveux et surmène la troupe que gagne sa propre inquiétude et qui a l'impression très déprimante d'être à la merci de la population ennemie qui, par sa seule masse, pourrait la submerger et se refermer sur elle. Voilà. Donc, le service de Passy continue à travailler dans cette direction. Finalement, De Gaulle acquiesce et entre... Alors, ça prend quelques mois, mais disons entre l'automne 1940 et l'été 1941... Passy et ses hommes nouent des liens avec les services britanniques. Churchill a créé, au cours de l'été 41, un service dédié à la guerre subversive et donc au sabotage, le Special Operation Executive, le SOE. Et donc, petit à petit, le service de Passy parvient à nouer des liens avec ce service, de telle sorte que les Britanniques vont assurer, d'une part, la formation au parachutisme des agents de la France libre, et puis vont... finalement, former les saboteurs professionnels, je mets professionnels entre guillemets, mais à peine, de la France libre. Ils vont les former dans leurs écoles, notamment en Écosse, et puis ils vont assurer tous les services logistiques, aériens, et puis les radios qui vont permettre de maintenir le contact avec ces hommes. Donc en clair, la France libre recrute les saboteurs et les Britanniques s'occupent de les former, d'en faire des saboteurs et de les envoyer en France et de maintenir le lien avec eux. Voilà. Alors, en 1941, ce petit groupe-là, le SR, qui est encore quelque chose de vraiment très modeste, il ne faut pas imaginer le BCRA de 1944, qui est devenu une énorme structure, c'est quelque chose de très modeste. Le SR partage avec le petit groupe de gauche de la France libre le constat que, je cite, « le patriotisme est fonction inverse des intérêts ». Est fonction inverse des intérêts. C'est-à-dire, en gros, que les ouvriers sont parmi les plus hostiles à l'occupant, alors que les patrons, eux, seraient, il y a des nuances, mais seraient plus favorables à l'occupant. Mais, donc c'est un constat qu'il partage, mais il n'en tire pas les mêmes conclusions. Il n'en tire pas les mêmes conclusions, et notamment, il refuse de considérer qu'il devrait nouer des liens avec les syndicalistes pour les utiliser comme saboteurs. En 1941, c'est en dehors du schéma de pensée de Passy et de ses hommes. Son idée, c'est que les Français rejettent tout ce qui relève de la Troisième République, tout ce qui relève du passé, relève notamment toutes les institutions, partis, syndicats, et que si la France libre veut pouvoir séduire le peuple français, elle doit aller dans ce sens-là et ne pas lutter contre ce courant. Et on a tout un tas de textes qui montrent ça très clairement. Et donc, le SR exclut toute démarche en direction des syndicalistes. J'imagine que Laurent Douzou ce matin, puisque Laurent Douzou vous a parlé d'Yvon Moranda, j'imagine qu'il a retracé les conditions dans lesquelles, début 41, Henri Hawke, lui, parvient à convaincre le général de Gaulle de nouer des contacts avec les syndicalistes, mais du coup, complètement à l'écart du SR. Il s'agit de nouer des contacts avec les syndicalistes, mais sans avoir recours au service du SR, puisque le SR, lui, y est totalement hostile. Et il vous a dit forcément que Henri Hawke, une fois qu'il a eu recruté Yvon Moranda, a été bien embêté pour l'envoyer en France, puisqu'il s'est heurté à l'hostilité du SR et de l'état-major en général, et que donc il n'a pu le faire partir en France que bien des mois plus tard, en novembre 1941. Et Hawke n'aura de cesse de dénoncer, je cite, les sympathies d'extrême droite SR, enfin de Passy et de ses hommes, qui, d'après lui, aliène au gaullisme les masses ouvrières et a tendance à les pousser vers le communisme. Et de fait, si on regarde, alors, Hawke considère que Passy est un fasciste qui est hostile aux relations avec les syndicalistes et que c'est comme ça qu'on explique les difficultés à envoyer Hawke. Évidemment, on doit se poser la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un propos polémique ? Force est de constater que d'abord, les archives ne sont pas très riches, ne sont pas loquaces sur le propos. Pour avoir bien fouillé, on ne trouve pas grand-chose, mais le peu qu'on trouve a tendance à confirmer quand même les craintes des syndicalistes londoniens. Je vous donne trois exemples. D'abord, dès 1940, l'un des premiers agents du service, qui s'appelle Raymond à l'époque, mais qui deviendra célèbre sous le nom de colonel Rémy, qui est le principal agent de renseignement de la France libre, laisse dans ses rapports libre cours à ses opinions réactionnaires et manifeste son dégoût à l'idée de contacter des anciens leaders syndicalistes. C'est clair. Peu après, un autre agent majeur de la France libre, Pierre Fourcault, affirme que les activités syndicales sont réduites à zéro et que René Belin, l'ancien cadre de la CGT qui a été nommé donc ministre du Travail par Pétain, est populaire et que si les ouvriers sont effectivement dans l'ensemble plutôt anglophiles, ils sont surtout, je cite, très apathiques et donc inutilisables comme saboteurs. Et au même moment, donc on est au printemps 1941, on trouve dans le carnet de Passy un propos qu'il n'a pas repris dans ses mémoires, parce qu'évidemment les choses ont évolué par la suite, mais il confie donc à son journal son inquiétude face, je cite, « au pas du général vers les milieux syndicalistes ». Référence, on imagine, justement, à l'autorisation qu'il a donnée à Henri Hawke de recruter un syndicaliste pour aller parler avec des syndicalistes. Voilà. Et donc, l'hostilité du SR à l'égard de l'utilisation des syndicalistes ne fait à peu près aucun doute. Et d'ailleurs, tous les plans que le SR va développer à partir de l'été 1941, et ça jusque, disons, à l'automne 1941, y compris les plans développés avec Jean Moulin, quand Jean Moulin est présent à Londres. Ces plans ne prévoient absolument pas de s'appuyer sur le milieu syndical pour recruter des saboteurs, mais au contraire de s'appuyer sur les groupes, on dit groupes, mais groupes, mouvements de résistance qui ont été repérés en France et que l'on crédite de n'avoir justement, un des intérêts qu'on leur trouve, c'est qu'ils n'auraient aucun lien avec les structures de l'avant-guerre. C'est en quoi on se trompe, mais enfin, on considère que c'est leur intérêt principal. Donc l'idée, ça n'est pas de s'appuyer sur les syndicalistes, c'est de s'appuyer sur les mouvements de résistance. Bon. Alors, l'attaque de l'Allemagne en URSS au cours de l'été 41 va modifier profondément la donne. D'abord, on va avoir des appels au sabotage qui vont venir de Londres, de Moscou, pardon, et qui vont être répercutés, qui vont se multiplier, qui vont être répercutés progressivement par l'humanité clandestine. Voilà. On a des appels au sabotage. Ce qui est nouveau, c'est pas qu'on ait des appels au sabotage, c'est que en conséquence, on a une multiplication des actes de sabotage contre les voies ferrées, contre les lignes électriques, etc. C'est-à-dire qu'on entre dans la période du sabotage effectif, tout à fait perceptible. Et ces sabotages vont contribuer, avec évidemment l'assassinat des soldats allemands, mais les deux sont en cause, à accroître considérablement la tension en zone occupée, où, on le sait, les Allemands exécutent désormais des otages. Et cette violence de la répression, la prééminence aussi des communistes parmi les saboteurs, personne n'en sait rien, mais tout le monde en est convaincu, et au demeurant, c'est vrai, mais vraiment, tout le monde en est convaincu très très tôt. Donc, à la fois la violence de la répression, la prééminence des communistes conduisent le petit groupe de gauche au sein de la France libre, justement, à modérer son ardeur en faveur du sabotage. Et les appels en direction des syndicalistes s'accompagnent désormais d'exhortations à la prudence. Je cite « Le courage est de savoir durer », explique Labarthe. Le sentiment qui prédomine désormais, c'est que l'urgence commande de calmer les ardeurs des plus activistes. Je cite l'émission du 2 septembre 1941. Donc, syndicaliste destiné au monde ouvrier. Nous honorons, nous remercions ces milliers de héros anonymes qui font dérailler des trains. Je rappelle qu'en fait, c'est quelques dizaines d'hommes, hein, et encore, en comptant en dizaines, on va très loin. Donc, nous honorons, nous remercions ces milliers de héros anonymes qui font dérailler les trains et sauter les convois, qui incendient usines et entrepôts, qui sabotent de façon systématique et obstinée l'industrie et les transports français vendus aux Allemands. Nous comprenons votre colère, nous admirons votre courage, nous partageons votre résolution. Mais nous nous permettons de glisser au milieu des applaudissements et des remerciements quelques conseils de prudence. La résistance active est importante, mais les combats de demain le seront davantage et les vies françaises sont précieuses. Donc on voit très clairement qu'on a une inflexion vers la prudence. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que la tradition syndicale qui contient en définitive, je vous l'ai dit, puisque le sabotage est né, a été conceptualisé au sein de la CGT, mais il a aussi été condamné par la CGT avant même la Première Guerre mondiale. Donc la tradition syndicale contient à peu près autant d'arguments en faveur du sabotage et en sa défaveur. Et donc la tradition syndicale, à partir de ce moment-là, elle est mobilisée pour souligner que l'organisation, la discipline l'ont toujours emporté sur, je cite, les mouvements violents et mal préparés qui ne conduisent qu'à des échecs sanglants. Donc le sabotage va rester de mise, mais sur un mode mineur, et on insiste davantage maintenant sur un sabotage insaisissable, un sabotage difficilement perceptible. Alors le BCRA, donc là on arrive en 42, donc j'utilise le terme de BCRA, le BCRA partage évidemment ses appels à ne pas se lancer inconsidérément dans l'action, mais lui continue à rechercher des hommes qui seraient prêts à exécuter des sabotages bien perceptibles, bien visibles ceux-là, notamment contre les voies ferrées, au moment du débarquement pour empêcher les renforts allemands d'accéder aux plages sur lesquelles ses alliés débarqueront à un moment. D'accord ? Or, au printemps 1942, le BCRA se retrouve dans une situation très difficile, qui va le faire profondément évoluer. En premier lieu, je vous ai dit tout à l'heure que le BCRA entendait recruter ses saboteurs essentiellement parmi les mouvements de résistance. Son idée, c'est de s'appuyer sur les mouvements de résistance. Or, début 1942, il éprouve une profonde déception à l'égard de ces mouvements. Début 1942, on a l'essentiel des agents d'action du BCRA qui rentrent à Londres. Ils rentrent pratiquement tous ensemble en même temps à Londres. Or, les rapports qu'ils écrivent sont unanimes. Les mouvements sont inutilisables sur le plan militaire. Ils sont inutilisables sur le plan, pratiquement inutilisables sur le plan militaire, à la fois d'abord parce que contrairement à ce qu'on a cru, ils ont des ambitions politiques et pas seulement l'ambition d'être un instrument militaire. Et puis, deuxième chose, ils ont une approche des questions de sécurité telle qu'en réalité, c'est des dangers publics et que si on s'appuie sur eux, on est sûr que tout se cassera la figure au dernier moment. Donc il y a vraiment une profonde désillusion qui est généralement passée sous silence dans les études. C'est pas quelque chose sur lequel on appuie. Et ça se traduit, on a des textes, par exemple, dans lesquels le BCRA dit clairement au SOI, le service britannique, qu'il a surestimé le potentiel militaire des mouvements. C'est la première chose. Or, au même moment, et ça va être le cas pendant toute la guerre, le BCRA, il est convaincu que le débarquement peut avoir lieu en 1942. Il faut vraiment toujours garder ça à l'esprit, c'est que pour les services secrets gaullistes, le débarquement, c'est demain. Dès 1941, en fait, il y a déjà, dès 1941, des idées que le débarquement pourrait avoir lieu. 42, au printemps 42, il y a urgence. Voilà. Il y a urgence. Si le débarquement a lieu dans quelques mois, qui est-ce qu'on utilise pour saboter ? Si ce n'est pas les mouvements de résistance, il faut que ce soit quelqu'un d'autre. D'accord ? Eh bien, nécessité va faire loi et le BCRA va fonder énormément d'espoir au printemps 1942 dans les syndicalistes. Alors, il est depuis longtemps convaincu que les milieux populaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, les milieux populaires et les milieux ouvriers, sont ceux qui rechignent le moins à s'engager, qui sont à la base de la résistance naissante et qui sont aussi prêts à s'engager concrètement dans une action violente. Mais disons qu'il estime désormais que sa capacité à agir, ce qui a changé, c'est qu'il estime que sa capacité à agir, sa capacité à concrétiser ses plans dépend des liens qu'il va pouvoir effectivement nouer avec les syndicalistes. L'ironie de l'histoire, c'est que cette évolution tient beaucoup au contact noué par le colonel Rémy, dont je vous ai dit tout à l'heure que c'est à la fois le plus anticommuniste, le plus hostile à tout lien avec les syndicalistes au sein de la France libre. Mais c'est aussi l'agent vedette du service et celui qui revient début 42 avec une quantité phénoménale de contacts qui redonne espoir à un service qui, déçu par les mouvements, est un peu inquiet de ce qu'il va pouvoir faire. Rémy revient à Londres fin février 1942 et il mentionne les contacts qu'il a établis avec Christian Pinault. Il explique que Christian Pinault dirige le mouvement Libération, qui regroupe les trois grands syndicats ouvriers de zone nord, et qu'il n'attend qu'une chose, c'est d'être convoqué à Londres pour se mettre aux ordres du général de Gaulle. Effectivement, le BCRA va organiser la venue de Christian Pinault à Londres. Il y sera de fin mars à fin avril. On sait que cette venue de Pinault à Londres va avoir de profondes conséquences politiques. C'est l'histoire du manifeste que le général de Gaulle rédige et remet à Pinault juste avant son retour en France et qui constitue une véritable profession de foi démocratique qui finalement matérialise la rupture de la France libre avec son apolitisme des débuts. Ça y est, le général de Gaulle trace une ligne politique et une ligne politique qui s'adresse en particulier au monde syndical et au monde de gauche. Voilà, donc il y a des conséquences politiques, mais il y a aussi des conséquences militaires de cette venue de Christian Pinault, c'est celle qui concerne plus directement le BCRA. C'est-à-dire que le BCRA s'applique à recruter Pinault pour à la fois qu'il aille, on le sait, créer des réseaux de renseignement, ce sera fait, d'accord, il créera des réseaux de renseignement en zone nord et en zone sud, mais aussi pour qu'il recrute des saboteurs. Et il présente Pinault au SOE britannique, en expliquant que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il a surestimé le potentiel militaire des mouvements de résistance, donc déception, je cite, « l'arrivée de mandataires des syndicats ouvriers et de communistes, parce qu'il y a François Faure en même temps, venant se mettre aux ordres du général de Gaulle, éclaire la situation d'un jour nouveau. » En clair, ça permet d'envisager de recruter des saboteurs. Pour être honnête, en mettant en même temps syndicalistes et communistes, en réalité, le BCRA va fonder beaucoup plus d'espoir sur le recrutement des communistes proprement dit que des syndicalistes. Ceci dit, peu après le départ de Pinault, l'autre personnage important, le premier chef de mouvement de zone sud à arriver à Londres, c'est Emmanuel Dacier de la Vigerie. Et Emmanuel Dacier de la Vigerie, on le sait, c'est le fondateur du mouvement Libération en zone sud, qui est le mouvement qui se distingue sans doute par l'importance qu'il accorde au monde du travail et par cet accord que Dacier a noué en novembre 41 avec Jouot, qui lui donne un vivier de recrutement considérable. Et quand Emmanuel Dacier arrive à Londres, il comprend immédiatement, il a des entretiens politiques, puis il a des entretiens militaires avec le BCRA, et il comprend immédiatement l'attente qui s'exprime à son égard, et l'attente, c'est recruter des saboteurs. Voilà. Il le comprend, et on le voit dans ce qu'il dit. Alors, il n'a pas grand-chose à offrir sur ce qui aurait été déjà fait. Dans ses rapports, il dit, bon, on a fait un petit peu des choses, mais par contre, il en rajoute sur le potentiel extraordinaire de son mouvement en termes de sabotage. Et effectivement, au cours des mois suivants, quand il va retourner en France, il va y avoir des ordres donnés. Effectivement, les cadres de Libération vont s'intéresser sérieusement à cette question. On le voit, ils vont rédiger des circulaires, les circulaires vont partir vers les régions, etc. On a compris que le BCRA attendait que le vivier syndical soit mobilisé en faveur du sabotage. Pourtant, en fait, les espoirs du BCRA dans les syndicalistes vont rapidement s'estomper. On est là au printemps 42, mais ça va rapidement s'estomper. D'abord parce que le BCRA prend conscience rapidement, il est bien placé pour le faire, que le sabotage n'occupe pas une place centrale dans la pratique des syndicats résistants. Ces réticences, les réticences que cette arme a suscité dès la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre, je vous l'ai dit, ces réticences restent vivaces, y compris parmi les syndicalistes résistants. Il y a évidemment des craintes qui sont liées à la peur du gendarme et qui sont tout à fait naturelles. Donc, il y a des craintes, la peur, disons. Il y a aussi la peur particulièrement forte chez les cheminots, par exemple, de porter préjudice à des civils français plutôt qu'à des militaires allemands en s'engageant dans cette voie. Et puis, il y a des réticences syndicales fortes, très très fortes, qui plongent leurs racines dans la culture syndicale, tout simplement, qui valorise, on le sait, la conscience professionnelle, le goût de l'ouvrage bien fait, l'attachement à l'instrument de travail, et puis la priorité aussi à l'action collective sur l'action individuelle. On peut citer Albert Guigui, qui est le représentant de la CGT qui s'installe à Londres au printemps 1943. Quand on écoute, ou qu'on lit les interventions d'Albert Guigui à la BBC à partir du printemps 1943, on trouve peu de références au sabotage. Et dès son arrivée à Londres, il explique à André Philippe et au général de Gaulle que Jouot prône une répartition des rôles entre les organisations syndicales qui doivent, je cite, « recommander aux ouvriers de freiner la production par tous les moyens adéquats » et les mouvements de résistance auxquels incombe la responsabilité des sabotages de destruction, répartition des rôles. Rien ne permet en fait de penser, alors c'est un sujet qu'on peut continuer à étudier évidemment, que l'action ouvrière, c'est-à-dire cette branche organisée par les mouvements dans le monde du travail, ne prône une action très différente de celle des syndicats clandestins. L'action ouvrière, elle aussi, même si elle parle de sabotage, elle privilégie la propagande, le travail d'organisation en vue d'une grève. Par ailleurs, une des choses qui conduit le BCRA à finalement acter sa déception, c'est qu'il réalise, je vous l'ai dit tout à l'heure, que les syndicalistes vont privilégier, quand ils parlent effectivement de sabotage, un sabotage dit insaisissable par mesure de sécurité. Sauf que le BCRA, c'est un service d'état-major. C'est un service d'état-major qui a vocation à piloter et à contrôler les actions de sabotage en France. Et évidemment, l'idée d'un sabotage insaisissable, ils vont jamais renier cette idée. Ils vont considérer que c'est évidemment, ça peut être utile, mais ça ne peut en aucune façon satisfaire un service d'état-major qui a besoin de compte rendu, qui a besoin d'actions visibles, qui a besoin de pouvoir contrôler ce qui se fait en France. Voilà. En somme, donc, le printemps 42 apparaît rapidement comme une parenthèse qui se referme. Les espoirs du BCRA dans les syndicalistes reculent ensuite rapidement. Alors, il recule, d'autant plus que finalement, cette déception qu'il a éprouvée à l'égard des mouvements au cours du printemps 42 va à nouveau basculer. C'est l'œuvre de Jean Moulin sur le terrain, c'est-à-dire que Jean Moulin va se montrer en réalité tellement efficace sur le terrain que des liens très forts vont être noués avec les mouvements et la formation de l'armée secrète, la constitution de l'armée secrète le 2 octobre 1942, l'institutionnalise, si vous voulez. L'armée secrète, elle est créée avec qui ? Elle est créée avec des troupes qui sont issues des mouvements et donc on revient à l'idée première qui était que ce sont les mouvements de résistance qui ont vocation à fournir les troupes de saboteurs de la France libre et non pas les syndicalistes. Je vous remercie.